On peut commencer.
Stéphane Kerkov, moi je suis directeur général d'Agir pour l'environnement. Je vais avoir la lourde tâche de censurer mes trois intervenants qui, a priori, sont très très bavards. Nous allons avoir à peu près une heure et demie pour échanger autour du nucléaire en général et du budget en particulier, sachant que je vais d'abord présenter mes intervenants. Michel Labrousse, qui fait partie de l'association Global Chance, extraordinaire association qui fait un travail de... extraordinaire association. Il paraît qu'il faut toujours flatter pour mettre en condition les intervenants, mais à l'évidence, c'est vrai, depuis plusieurs décennies.
Trois décennies.
Avec feu Benjamin Dessus et Bernard Laponche qui ont tenu de main de maître pendant des années cette association qui produisait beaucoup d'expertise et beaucoup de contre-expertise. Je ne sais pas si on peut dire contre-expertise. Donc Michel Labrousse, donc Global Chance, mais aussi ancien du CEA et récemment nommé à la CLI, donc Commission locale d'information de Flamanville. Et il était encore avant-hier à Flamanville. Voilà, donc normalement, quand on va éteindre, il continue à rayonner un petit peu, vous allez voir. On n'a pas de compteur GGR, donc on va voir si ça fonctionne. Je fais le lien avec Laure Noala, qui a été il y a quelques années à Tchernobyl, donc qui doit aussi encore un petit peu rayonner, qui est journaliste à Reporter, qui vient d'éditer un livre qui s'appelle « La France, le nucléaire va ruiner la France ». Je lui demanderai pourquoi le futur. Alors, j'ai plutôt l'impression que le nucléaire a déjà ruiné en partie la France, mais à voir. Et tu as été aussi autrice de pas mal de documentaires et de livres sur le nucléaire, mêlant tout à la fois engagement et rigueur. Donc vraiment, je suis très heureux elle va réussir à vous émerveiller en vous parlant d'un rapport de la Cour des comptes. Vous allez voir, ce n'était pas un exercice facile, mais... voilà. Et Michel Maya, le local de l'étape, qui est maire de Tramaille et qui, presque depuis aussi longtemps Global Chance, impulse une politique énergétique alternative à Tramaille et qui pourra nous dire tout à la fois sans nucléaire. Il n'y a même pas un petit nucléaire à Tramaille. Pourtant, en fait, le territoire pouvait largement l'accueillir. Mais en tout cas, il a fait la démonstration qu'on a eu un atelier hier magnifique sur Jacques Ellul, à qui on doit la formule « penser globalement, agir localement ». Donc, on va critiquer globalement et on va s'émerveiller localement. Voilà, donc ça, c'est la petite introduction. On va commencer par un petit jeu. Si je vous dis « obstination », vous pensez à qui ? C'est assez facile hein, en ce moment. Voilà, bon, donc vous pensez à peu près. Si je vous dis obstination, vous pensez à quoi ? On pense moins, alors peut-être ici, mais ça va être un peu l'objet du débat sur le nucléaire. Il y a une espèce d'obstination française à vouloir perpétuer les erreurs du passé en les démultipliant, avec quelque chose qui, une fois encore, on va revenir très rapidement au livre de Laure, sur « va ruiner la France », avec des investissements faramineux sur la construction du nucléaire, mais aussi sur la maintenance, sur la gestion des déchets nucléaires, sur le démantèlement. Enfin voilà. Donc je te passe tout de suite la parole, et si tu veux nous dire un petit peu où on en est aujourd'hui, sachant que en fait, on a calculé l'endettement d'EDF sur ces 20 dernières années, en fait, chaque minute qui a passé, l'endettement d'EDF a augmenté de 3 000 euros. Je te laisse la parole 10 minutes, donc vous faites le calcul, ça va nous coûter 30 000 euros. C'est une intervention à 30 000 euros.
C'est super d'avoir chronométré nos interventions en endettement d'EDF. Je trouve ça intéressant. Oui, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, le parc nucléaire, 56 réacteurs fonctionnels, en fonctionnement. Et puis un projet unilatéral, effectivement décidé par Macron en février 2022 lors du discours de Belfort, dans lequel le discours, il est intéressant à lire parce qu'il y a quand même trois gros bouts. Il y a le bout numéro un qui est quand même... ils sont dans le désordre. mais je vais vous les donner dans les ordres. Mais on parle beaucoup d'énergie renouvelable, augmentation des objectifs, etc. On parle beaucoup de sobriété. Mais surtout, ce que tout le monde a retenu ce discours, c'est l'annonce officielle, unilatérale, de commander à EDF 6 EPR2, donc les successeurs, les fils des EPR, de l'EPR de Fresnes-Lamontville, d'Hinkley Point et de Finlande, mais aussi de Chine. Donc l'EPR est à Flamanville et là maintenant c'est 6 EPR2 qui ont été commandés ainsi que des études pour 8 EPR2 supplémentaires. L'EPR2 c'est le fils de l'EPR, puissance 1650 MW. L'EPR a déjà été construit, un en France, je pense que tu en parleras beaucoup plus que moi. Mais voilà, c'est 6 EPR2 du coup banco. Et dans son discours il nous dit nous allons provisionner les milliards pour financer ce programme. Les milliards sont à disposition, dit-il. Mais oui, mais combien ? Parce qu'au départ, on est parti sur un devis. Tout est dans le devis, en fait, que se cristallisent les questions. Au départ, ces 6 EPR2 devaient s'élever à peu près 60 milliards d'euros. C'est facile à retenir, hein, on va dire 10 milliards pièces. Je vous passe les détails et les réévaluations successives, mais on est à peu près aujourd'hui... Ça a été formulé, lâché comme ça, 100 milliards d'euros. Donc on est déjà plus à 15 milliards pièces. Donc ça a pris 50% quand même en très peu de temps. Et puis, on ne sait pas tout à fait où on va, mais on est avec ces 100 milliards d'euros pour financer le programme de 6 EPR2, 2 EPR2 à Gravelines, 2 EPR2 à Penly 2, 2 EPR2 peut-être au Bugey. C'est pour vous. Ouais, vous avez des députés qui sont très volontaires sur le fait d'accueillir plein de choses nucléaires. Alors, j'ai dit député, donc on m'a coupé. Okay. Du coup, ça, c'est le programme à venir. On sait que notre nucléaire existant vieillit, doit passer le cap de ses visites décennales. Donc, on arrive bientôt à la 5e visite décennale pour une grande partie du parc. On a des parcs de première, deuxième, troisième génération. Voilà, ce parc nucléaire doit fonctionner de manière sûre. Voilà pourquoi on doit engager à différents niveaux, sur différents sites, un travail de grand carénage. C'est un programme qui a été voté et ce programme fixe à peu près à hauteur de 100 milliards d'euros à peu près. Je vous avoue que c'est à la louche, hein. Comme dirait Bruno Le Maire, l'unité de compte en matière nucléaire c'est la dizaine de milliards d'euros. Donc vous m'excuserez de ne pas être tout à fait plus précise que les donneurs d'ordre, mais on est à peu près à 100 milliards d'euros, le grand carénage, pour continuer à faire fonctionner ce parc de réacteurs existants, lequel fournit à ce jour entre 75, 77, 80% de notre électricité. Voilà, une fois qu'on a dit ça, il nous reste quoi ? Eh bien, les déchets. Où est-ce qu'on enfouit tous ces déchets qu'on produit à chaque fois qu'on appuie sur un interrupteur ? Eh bien, il a été décidé, avec la loi de 1991 sur l'enfouissement des déchets radioactifs, qu'on allait enfouir tout ça entre... Ben, pour l'instant, il y a un laboratoire à Bure, entre la Haute-Marne et la Meuse, un laboratoire où on essaie d'observer, de comprendre cette poche d'argile située à 800 mètres sous terre, dans laquelle on va enfouir des colis de déchets radioactifs. Alors, pas tous les déchets radioactifs, les plus dangereux, les actinides mineures, ceux qui font partie de 4% en fait, des déchets au final, qui sortent d'une centrale, les plus dangereux, les plus longuement dangereux, on va les enfouir donc à 800 mètres sous terre à Bure. Ça, CIGEO, c'est le projet. Vous en avez déjà entendu parler, j'imagine. Et ce projet est mené par l'ANDRA, l'Agence nationale des déchets radioactifs. On en a à peu près, d'après la dernière réévaluation, pour 35 milliards d'euros. À cela, nous rajoutons également le provisionnement qu'EDF doit faire pour démanteler les réacteurs qui, nécessairement, arriveront à la fin de leur vie, de leur exploitation industrielle. C'est-à-dire qu'ils ont été quand même prévus au départ pour fonctionner 30 ans, date qu'on a déjà dépassée, puisque la plupart des réacteurs sont aujourd'hui âgés de 40 à 50 ans. Donc, fatalement, si ce n'est pas dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, je ne sais pas, il faudra démanteler ces réacteurs. Et ça, c'est également un coût que doit provisionner EDF. On est à peu près à 20 milliards d'euros, mais c'est très, 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 très en dessous de ce qu'il faudra, parce que pour tout sortir tous ces chiffres, c'est pas comme ça des calculs de coin de table. Ce sont quand même, moi je ne m'attendais pas à tomber amoureuse un peu des rapports de la Cour des comptes. Parce que la Cour des comptes, ce n'est pas des rigolos, on est d'accord. Ce sont des gens qui sont toujours dans les chiffres et tout. Mais ils arrivent quand même, depuis une quinzaine d'années, à fournir régulièrement des rapports qui concernent la filière nucléaire dans toutes ses facettes, c'est-à-dire le démantèlement d'un côté, le déchet de l'autre, la filière EPR, l'approvisionnement en uranium, etc. Je vous invite parfois à jeter un œil, au moins sur les conclusions d'un rapport de la Cour des comptes. C'est très pédagogique, c'est très clair, c'est très clair, et à chaque fois, les conclusions ne sont jamais suivies. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose d'assez intéressant là-dedans. Et donc, dans ces rapports-là, le dernier en date étant celui sur les comptes d'EDF, qui est sorti à peu près une quinzaine de jours, on apprend qu'on a un opérateur historique qui doit fournir l'électricité à 70 millions de Français, donc 30-35 millions de foyers. Ce faisant, il a un parc nucléaire et puis il a des investissements à faire pour renouveler ce parc nucléaire, pour assurer la sûreté de ce parc nucléaire, pour démanteler ce parc nucléaire, pour gérer les déchets de ce parc nucléaire. Et donc tous ces chiffres amènent à un chiffre faramineux d'endettement possible qui est de 430 milliards d'euros, je crois, d'ici à 2040. C'est pas après-demain, c'est dans 15 ans. La plupart d'entre nous, on sera ici, Inch'Allah, dans 15 ans. Donc, j'invite tout le monde à regarder les rapports de la Cour des comptes. J'arrête pour les chiffres, c'est un peu pudding, mais n'empêche que ça nous pose quand même la raison un peu du titre. Grand carénage 100 milliards, démantèlement 20 milliards, 35 milliards pour 6 GO, et puis 100 milliards peut-être pour 6 EPR2 dont on ne sait quand ils seront terminés ni quand ils seront raccordés.
Et l'aval du futur ?
Ah, l'aval du futur. Alors oui, l'aval du futur, oui, pardon.
Il n'y a pas de bande dessinée, là.
Non, il n'y a pas de bande dessinée, mais c'est vrai que l'aval du futur, qu'est-ce que c'est ? Alors, le cycle du combustible nucléaire considère qu'il y a un amont du cycle, c'est-à-dire l'approvisionnement en uranium, jusqu'à ce que l'uranium, après avoir été transformé, soit rentré dans une centrale. Il fait son office, c'est-à-dire qu'il nous produit de la vapeur qui va faire tourner les turbines, des génératrices d'électricité, lesquelles vont nous fournir notre électricité. Mais une fois qu'il a fait son office, il y a des déchets ultra radioactifs. Et c'est ça, l'aval du cycle du combustible. Cet aval, il est constitué en termes d'installation à ce jour de l'usine de retraitement de La Hague. Parce que quand vous avez un bloc de 100 qui rentre dans une centrale, dans un réacteur, vous avez 95% qui va sortir, qui sera de l'uranium qu'on peut retraiter. On le retraite, mais il est stocké à Pierrelatte. Donc on a à peu près plus de 30 000 tonnes d'uranium de retraitement à Pierrelatte. 1%, c'est du plutonium qu'on va réinjecter pour refaire un nouveau combustible qu'on appelle le MOX. Et 4%, ce sont les fameux déchets ultra radioactifs qu'on va aller enfouir à Bure. Donc voilà, l'aval du cycle, c'est cette usine de La Hague et la préparation d'un nouveau combustible qui est le MOX. Peut-être que tu en parleras plus tard. Mais là aussi, il y a un chiffre qu'on cherche, c'est qu'il y a un nouveau projet, c'est de remoderniser l'usine de La Hague et ensuite de changer l'usine Mélox pour l'installer ailleurs que là où elle est. Enfin bref, je vous passe les détails, mais on est à peu près encore à quelque chose de l'ordre de 30 milliards d'euros, je crois, la valeur du futur. Bon, ça fait beaucoup de chiffres. Mais moi, ce que je sens dans tout ça, c'est une espèce d'immense dépendance au sentier technologique qu'est le nucléaire. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de chercher vos milliards, de trouver des techniques de financement, des modalités de fixation du prix de l'électricité, etc., à la fin, vous n'êtes pas en train de penser autre chose. Et pour moi, c'est au-delà d'une obstination. Je dirais que c'est une immense paresse intellectuelle. On est en 2025. On sait qu'on peut faire autrement, que la première chose à faire, c'est de réduire nos consommations, de parler de décroissance, de ce que vous voulez. On sait ce qu'il faut faire et on ne le fait pas. Et on a cette dépendance technologique, ce sentier technologique duquel nous dépendons et qui nous emmène à toujours une course en avant. Mais pour ce sujet-là, dormez sans crainte, citoyens, il y aura toujours des sous.
Sur les alternatives.
Quelles alternatives ?
d'isolation des bâtiments, de développement des énergies renouvelables, paresse intellectuelle, mais aussi syndrome d'Astérix, du village gaulois. C'est-à-dire que, en fait, quand on regarde à l'échelle européenne, mais en fait, personne ne fait comme la France. Mmh. Combien ça coûte, qui, enfin, on a l'impression qu'en fait, on est en train de courir plusieurs lièvres à la fois, mais essentiellement dans le cadre de la vision productiviste, c'est-à-dire on ajoute de l'éolien, on ajoute du solaire, on ajoute du nucléaire, mais est-ce qu'on a réellement investi aujourd'hui dans une politique de sobriété et d'efficacité énergétique ?
Non, pas du tout.
Combien ça coûterait ?
Alors l'exercice qu'on a fait à Reporters, parce qu'il y a à la fois un livre, mais aussi un documentaire que vous trouverez gracieusement sur le web. On a demandé à Virage Énergie, peut-être que vous connaissez, c'est un cabinet d'études sur les questions de sobriété énergétique, on va dire en tout cas, de nous dire ce qu'ils pouvaient faire avec 100 milliards d'euros. À la place de mettre 6 EPR2, qu'est-ce qu'on peut faire avec 100 milliards d'euros ? Et là, vous avez largement de quoi engager des politiques publiques structurelles en matière de décarbonation et décroissance électrique. Voilà, donc je ne vais pas détailler, mais ça va des transports, la réhabilitation, par exemple, de toutes les petites gares, de toutes les voies de chemin de fer pour éviter d'avoir recours au pétrole. Là, vous allez me dire, mais attendez, ce n'est pas moins de nucléaire, ça, c'est moins d'énergie fossile. Très bien. On a également l'isolation des bâtiments. Bah, évidemment, ça, c'est quelque chose dont on entend parler depuis 25 ans. Moi, j'en ai marre qu'on me ressorte encore. Il suffit de mettre 1 milliard d'euros par an pour rénover 700 000 bâtiments. Que se passe-t-il qui fait que ça bloque tant ? Bon, bah, entre la formation. Là, j'ai l'impression de tenir le crachoir et d'aller très loin, mais en gros, on a des alternatives, on a des plans, que ce soit les travaux de Négawatt, que ce soit les travaux de Virage Énergie, travaux d'énormément de choses pour nous parler de sobriété, ça existe et voilà, on n'a plus qu'à.
Laure ne veut pas tout dire parce que non. Tout est.
Non. Voici.
Je vais passer. De la CLI de Flamanville, avec malgré tout quand même une mise en perspective. Ça fait, nous suivons jour à jour la production de l'EPR de Flamanville, donc ça fait 294 jours qu'il a été raccordé au réseau pour un fonctionnement de 74 jours. Donc vous faites le calcul, ça fait plus de 220 jours où globalement il n'a pas produit d'électricité, voire il en a même plus consommé que produit. Qu'est-ce qui se passe là-bas ?
Je vais expliquer un petit peu, mais ce que je voulais dire, c'est avant, j'aurais bien aimé pouvoir présenter encore un chiffre. J'aime bien commencer par ce qu'on appelle un diagramme, le diagramme de Sankey. C'est-à-dire un diagramme qui présente comment se crée l'énergie et comment elle est utilisée. Et dans ce qu'on appelle l'énergie finale, cette énergie finale, c'est l'électricité en particulier, qui ne représente jamais que 25% d'énergie finale. Mais cette électricité, elle est produite par des centrales, comme vous savez, majoritairement nucléaires, les fameux 75% de production nucléaire dans le mix électrique. Aujourd'hui, c'est un peu moins. C'est de l'ordre de 60-65%, parce qu'il y a une concurrence des énergies renouvelables. Et surtout, les deux tiers, comme vous le savez, de cette énergie produite, à partir de l'uranium, donc à partir de toutes les chaînes qu'a évoquées Laure, les chaînes de combustible, 45% de cette production sous forme de chaleur est donc évacuée. C'est les fameuses tours de réfrigération, ce sont les fameux canaux de d'entrée d'eau pour les centrales au bord de mer, avec ou sans méduses. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'on reste sur un système qui est totalement archaïque. Enfin, archaïque. Le brave Carnot avait trouvé le principe de Carnot, mais le fait qu'on évacue encore une grande quantité de la chaleur. Et donc, ne serait-ce que le bon sens, et le bon sens de n'importe quel technicien ou ingénieur devrait dire, évitons ça, même si ce n'est pas autant aussi dangereux que la radioactivité, etc. Mais déjà, ce phénomène-là devrait être pris en compte pour les futurs systèmes électriques, ce qui est le cas des énergies renouvelables, qui, elles, ne consomment pas, ne produisent pas de chaleur. Alors, ce que je voudrais juste, c'est rappeler quand même que quand on parle de nucléaire, il faut bien se... On a évoqué les composantes, hein, le nucléaire existant, les 56 réacteurs qui fonctionnent et qui datent, qui ont 40 ans pour les plus âgés, ou 40 ans c'est l'âge moyen, 30 ans. Et donc, impérativement, ces réacteurs doivent être prolongés. Il y a bien sûr le nouveau nucléaire que tu as évoqué, qui est aussi une... Alors, la différence, c'est que autant le nucléaire ancien, il est là et on le connaît, autant le nucléaire nouveau, EPR2, ben, il n'y a pas encore de décision qui est prise. On fait tout pour, on fait tout comme, mais etc. Il y a un autre nucléaire dont vous avez certainement entendu parler, qui est un peu sournois, c'est ce qu'on appelle les SMR. Et ça vaut la peine d'en dire deux mots, parce que ce sont des petits réacteurs, Small Modular Reactor ou AMR, Advanced Modular Reactor, c'est-à-dire des réacteurs qui sont de petite dimension. Et l'idée, c'est à la place donc, de ces immenses réacteurs dont l'économie est fondée sur ce qu'on appelle l'effet d'échelle, là, ce sont des réacteurs qui seraient fondés, dont l'économie serait fondée sur l'effet de série. Et il y a une grande fébrilité autour de ce type de réacteur en France, mais aussi partout dans le monde. Ça vaut la peine d'en parler. Et puis, le cycle du combustible que tu as évoqué, sans oublier aussi, dans le cycle du combustible, c'est ce qu'on appelle le cycle du combustible. C'est un langage, le mot cycle, c'est comme si on fermait. Effectivement, c'est l'objectif, c'est de fermer le système, le nucléaire, finalement, sa rationalité, c'est d'utiliser au mieux le combustible nucléaire, qui est à la fois l'uranium-235, qui lui est fissile, et l'uranium-238, qui lui est fertile, donc il faut fertiliser. En quelque sorte, il faut mettre en place. Et c'est donc ça qui ouvre la porte aux réacteurs de quatrième génération qui ont été évoqués, réacteurs à neutrons rapides, dont la France a construit un premier prototype, c'était Phoenix, un premier réacteur de grande puissance, c'était Super Phoenix, et auquel tout le monde, enfin tous les à la fois les politiques mais les ingénieurs rêvent pour la suite. Et en particulier les SMR dont j'ai parlé, assurant en quelque sorte la jonction, certains d'entre eux reprenant justement le principe de des neutrons rapides, avec tout ce que cela comporte comme difficultés, comme problèmes du cycle de combustible, etc. Donc, il faut bien prendre en compte l'ensemble de toutes ces activités dans le nucléaire, parce que même si les acteurs ne sont pas toujours les mêmes, elles sont quand même très, très, très liées les unes aux autres, et en particulier, bien sûr, partent toutes d'une décision politique. Alors, la première question qui était posée, c'est comment et pourquoi sortir du nucléaire ? Alors, le pourquoi, on y répond tous. Et c'est peut-être pas inintéressant de le rappeler. Donc, ce sont des solutions qui sont absolument pas adaptées, en particulier à ce qui aujourd'hui est mis en avant, c'est-à-dire le changement climatique. Donc, on a évoqué les problèmes de déchets, les problèmes de sûreté, les problèmes d'accidents, le problème de dépendance aussi. Le problème économique, on l'a évoqué. Il y a un autre aspect qui rentre un peu dans tous ces aspects, mais qui, pour nous, est absolument fondamental, c'est la vulnérabilité du système. C'est-à-dire que le nucléaire, qui aujourd'hui, au niveau mondial, ne représente que 9% de la production d'électricité, alors que depuis 60-70 ans, on imagine que le nucléaire va prendre une place tout à fait importante, il suffit, entre guillemets, de quelques accidents, passez-moi l'expression, Freeman Island, Tchernobyl, Fukushima, pour arrêter la machine. C'est-à-dire que l'opinion publique en particulier, les politiques en particulier, se mettent en pause et par conséquent, les programmes nucléaires ne prennent pas l'importance qu'ils sont censés prendre aux yeux de ceux qui ont fait ces prévisions. Dans le cas français, on a un exemple tout à fait intéressant, c'est en 2022... la production nucléaire a été très, très limitée après avoir découvert les fissures, la corrosion sous contrainte, donc arrêté des réacteurs et on n'est pas assez loin du blackout ou tout au moins de du délestage, de l'arrêt avec des systèmes qui s'appelaient EcoWatt et qui nous auraient permis. Donc c'est ça la vulnérabilité. C'est-à-dire que si demain on retrouve un problème du même type qui implique d'arrêter de nombreux réacteurs, comment fait-on ? C'est-à-dire comment assure-t-on l'alimentation en électricité ou en service électrique des ménages, des industriels, des transports, puisque de plus en plus les transports vont être électrifiés. Et donc, cette dépendance, cette fragilité est une dimension extrêmement importante qu'il faut prendre en compte et on pense qu'elle n'est pas suffisamment prise en compte dans les dispositions qui sont aujourd'hui. On s'apprête à construire des EPR2, mais comment EPR2 avec un développement des énergies renouvelables, mais ce type d'accident, entre guillemets, qui n'est pas un accident nucléaire, ce type d'accident, comment fait-on pour que l'économie ne soit pas mise à genoux ? Alors, je vais juste vous parler un tout petit peu de la CLI, parce que la CLI, certains d'entre vous font peut-être partie de ce type de commission locale d'information, et donc à Flamanville, donc, comme dans tous les centres nucléaires, il y a donc depuis un certain nombre de dizaines d'années cette commission locale d'information qui est une occasion donnée, offerte à, en gros, une soixantaine de personnes qui sont issues de quatre collèges, c'est-à-dire les élus, les syndicats, les associations, des personnalités qualifiées. Donc, EDF et la SNR. La SNR, c'est l'autorité de sûreté nucléaire et radioactivité, c'est-à-dire que c'est une autorité qui a remplacé depuis le 1er janvier 2025 à la fois l'IRSN, qui était un institut d'expertise, et l'ASN, qui est un organe de décision dépendant directement de l'État. Et donc, ces deux organismes, EDF et ASNR, sont présents dans ce type de réunion. Naturellement, un des sujets principaux lors de la réunion d'avant-hier, c'était qu'en est-il de l'EPR ? Donc l'EPR, comme vous le savez, a à peu près...
Oui, qu'en est-il ? Moi, j'attends, hein, journalistiquement. Voilà, j'y arrive. Je t'avoue, ça fait un an et demi que je dois faire des sujets, des articles sur « Oh, il redémarre toujours pas !» Bon, voilà, il y en a marre.
Alors, l'EPR a démarré à l'arrache, hein, disons-le. Il a démarré à l'arrache, c'est-à-dire le 21 janvier. Non, il a divergé en septembre. Et il a été mis en service en mai, 2024, diverger. Alors, la divergence d'un réacteur, c'est une opération extrêmement importante parce que, à partir du moment où le réacteur a divergé, toutes les opérations que l'on peut faire dans le réacteur, autour du réacteur, sont beaucoup plus compliquées puisque il y a un phénomène d'irradiation, de contamination, qui fait que, et en particulier, il y a parmi les nombreux problèmes qui ont affecté le PR, il y a ce problème de nature de l'acier, de la cuve, du couvercle. Et donc, on a réalisé un nouveau couvercle qui doit remplacer l'ancien couvercle. Et ce nouveau couvercle, il eût été extrêmement facile de l'installer avant la divergence, puisque le nouveau couvercle, la décision avait été prise en 2018, on était en 2024, et donc on avait largement la possibilité, le nouveau couvercle était là. Et rien à faire, donc la divergence a eu lieu, et le réacteur a été raccordé au réseau, entre guillemets, le 21 décembre 2024. raccorder au réseau, ça signifie que l'idée, c'est que le réacteur produit de l'électricité. Or, il est raccordé au réseau dès le début, puisque d'abord, il consomme de l'électricité, et puis, quand on a la chance de le voir fonctionner, effectivement, il va donc produire de l'électricité. Et donc...
Attends, est-ce qu'à ce jour, il y a des électrons qui sont sortis de Flamanville EPR ?
Oui, il y a des électrons qui sont sortis de Flamanville, puisqu'il a fonctionné pendant 292 jours. Il y a eu 74 jours de fonctionnement. Et puis, il y a effectivement des électrons qui sont sortis de Flamanville, mais le réacteur a été arrêté, en gros, pour deux raisons. La première raison, c'était un problème sur la turbine, donc c'est-à-dire sur un composant qui n'est pas dans l'îlot nucléaire et qui, la turbine, c'est cette immense machine qui permet donc de fabriquer l'électricité et pour lequel EDF a un soin particulier pour faire en sorte que le rendement, et on revient au tout premier chiffre, que le rendement soit le plus élevé possible. Donc on gratte 1% ou 2% de rendement pour améliorer donc le rendement, il fallait que la turbine soit dans des bonnes conditions, qu'il n'y ait pas de frottement, etc. Bon, ça, c'est donc le premier arrêt. Et le deuxième arrêt, le 19 juin dernier, c'est un problème dû aux soupapes. Alors, les soupapes, c'est quoi ? Vous savez tous ce que c'est qu'une soupape sur un appareil à pression. C'est le système qui permet en particulier de ne pas monter la pression à un niveau trop élevé et qui permet donc d'évacuer la vapeur si la pression est trop élevée. Il y a d'autres fonctions aussi. Or, les soupapes de l'EPR sont des soupapes qui sont différentes dans leur conception des soupapes des réacteurs précédents. Ces soupapes-là sont des soupapes dites pilotées, c'est-à-dire que ce n'est pas la pression qui soulève la soupape, comme dans la cocotte minute, mais on passe par l'intermédiaire d'un appareil, d'un équipement, une autre soupape, si on peut dire, un autre clapet, qui va donc déclencher l'ouverture de la soupape. Et depuis plus de 10 ans, le nombre de rapports, le nombre d'avis d'IRSN, le nombre de... Et on ne le compte pas. Jusqu'à ce que, en particulier, les problèmes liés au pilote des soupapes soient déclarés résolus. Or, là, au mois de juin dernier, ce ne sont pas les clapets, ce ne sont pas les pilotes qui sont déclarés défectueux, c'est tout simplement la soupape qui n'est plus étanche. Donc, la soupape, il y en a trois soupapes. Trois soupapes qui sont sur le haut de ce qu'on appelle le pressuriseur. Le pressuriseur, c'est le vase d'expansion, si vous voulez. C'est le vase d'expansion du réacteur. Et donc, ces soupapes-là doivent s'ouvrir, doivent bien sûr résister à la pression du pressuriseur, 150 et quelques bars, s'ouvrir à 172 bars, etc. Et donc, toutes ces soupapes doivent être remplacées. Remplacées, non, c'est-à-dire réajustées. Et donc, EDF explique qu'on a... Et il y avait deux soupapes sur lesquelles on avait quelques doutes. La troisième a été remplacée aussi. On est à 4 mois d'arrêt et on annonce le prochain arrêt le 17 octobre, c'est-à-dire 4 mois après. L'arrêt va s'arrêter. Non,
on peut se confusionner. Ouais, hein,
ouais, on est un peu confus, d'accord.
Et donc, presque aussi compliqué que le Premier ministre, vous allez voir.
Et donc l'explication, c'est intéressant parce que les explications sont quand même très très limitées, données par EDF. Et la CLI est un endroit privilégié parce qu'on peut effectivement poser des questions, mais ce n'est pas un endroit où on peut échanger.
C'est pas un endroit où on a toujours des réponses non plus.
Alors, on n'a pas toujours de réponse. Comme par exemple, comme dans les rapports d'EDF, il y a des passages qui sont confidentiels, qui sont caviardés, etc. Et les réponses que l'on a sont jamais... En fait, c'est des problèmes très, très complexes. Hein, et il faudrait pouvoir échanger pendant un certain temps. Or, ce n'est pas du tout dans la religion d'EDF. Et en particulier, l'étude de ces... soupape ou de n'importe quel composant, il y a une information qui est intéressante, qui est fournie par l'IRSN, donc la SNR maintenant. Mais la plupart des le système fonctionne de telle sorte que l'ASNR pose des questions à l'exploitant, donc en l'occurrence EDF. Donc quand, et ces questions sont clairement présentées sur le site de l'ASNR. Mais les réponses ne sont jamais là. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais. EDF n'est pas tenu de présenter en retour les moyens qu'il a mis en place. Pour... Donc c'est uniquement par un autre document qui est issu de l'ASNR que l'on peut savoir si effectivement, et par la déclaration de l'ASNR. C'est-à-dire que la transparence dans ce système-là, et donc l'expertise que l'on peut faire, elle se fait avec la moitié, en gros, des documents, et on essaie de comprendre ce qui se passe effectivement. Et dans la CLI, on peut poser des questions, mais le temps est limité. Donc voilà, la CLI, c'est surtout fait pour expliquer aux gens que tout marche bien, tout va très bien. Voilà. Alors, c'est donc pour le tableau de marche de l'EPR qui, en principe, devrait atteindre la puissance nominale, donc 1650 MW, ou un peu moins, avant la fin de l'automne, c'est-à-dire dans 2 mois. Voilà.
On les croit sur parole.
Et on pourra prolonger la discussion sur d'autres sujets après.
Ouais, sachant que, petite précision, sur les 74 jours de fonctionnement, l'EPR a fonctionné 3 heures à 50% de sa puissance nominale. C'est-à-dire que quand il fonctionne en moyenne à 10 ou 15% de sa puissance nominale. C'est-à-dire que en gros, il ne produit pas grand-chose. Et quand il est à l'arrêt, c'est aux alentours de 50 MW consommés en permanence pour rien que le refroidir. Donc en fait, l'EPR aujourd'hui consomme plus d'électricité depuis maintenant 4 mois d'affilée que ce qu'il produit, ce qu'il pourrait produire. Donc en fait, là, on est vraiment dans le côté shadowkien. C'est on a investi, et tu l'as pas dit, mais c'était supposé être 3,3 milliards d'euros, on finit à 23,7 milliards d'euros. Petit détail, hein, c'est, comme disait Laure, on est toujours sur le crantage, c'est à peu près à plus ou moins 10 milliards d'euros. Mais en plus, c'est quelque chose qui consomme de l'électricité. En fait.
Voilà, le facteur de charge, en gros, sur la première année, c'est 4,2%. Et il faut savoir que ce qui a été annoncé, c'est un facteur de charge qui va avoisiner 65%. Pour les 3 prochaines années, et 85% ensuite. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une fuite en avant, et on espère toujours que les fonctionnements... Mais 4%, c'est le facteur de charge de la première année.
Bon, je faisais le parallèle tout à l'heure avec l'obstiné de l'Élysée et l'obstiné du point de vue énergétique. Si je fais le parallèle, c'est qu'en fait, il y a quand même quelque chose de l'ordre du mimétisme dans la structuration énergétique de la France avec la structuration institutionnelle de la France. C'est-à-dire un truc très centralisé qui va produire tout et qui s'impose au territoire. Et on voit bien, et j'essaie de faire le lien avec Michel Maya et sa politique locale, que les maires ou les élus locaux, en fait, sont globalement dessaisis de leurs compétences énergétiques. Et en fait, c'est quand même assez rare d'avoir des élus qui, à un moment, prennent à bras-le-corps leur capacité de production, d'autoproduction et d'isolation des bâtiments de façon à être beaucoup plus résilient et autonome par rapport au pouvoir central. Est-ce que c'est ça qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a motivé pour déjà nous dire ce que tu as fait à Tramail en moins de 10 minutes?
Oui, alors je suis le local de l'État. Pour ceux qui ne connaissent pas Tramail, c'est à 17 km d'ici, pas très très loin. Je suis élu depuis 30 ans. Je suis le maire de la commune depuis 30 ans. Le premier mandat, j'ai rien fait, si ce n'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et puis au deuxième mandat, on a commencé à regarder justement différentes choses. Et en particulier, on a pu mettre en place un réseau de chaleur qui, depuis 2006, alimente tous les bâtiments municipaux, alimente les pattes de Tramail et une soixantaine de logements de particuliers. Réseau de chaleur qui n'utilise pas de l'uranium, mais utilise le bois déchiqueté de la scierie qui est située à 4 km de Tramail. On élimine les déchets d'une scierie située à 4 km de Tramail.
Combien d'habitants à Tramail?
Bonne question. Au dernier recensement, 1062.
Merci.
Voilà. Et donc, depuis, on a aussi travaillé sur différents d'autres sujets, parce que j'ai eu l'opportunité, par ce réseau de chaleur, de rencontrer du monde au national, etc. Donc, je me suis retrouvé, par hasard, président du comité de liaison des énergies renouvelables. Je suis dans un réseau qui s'appelle Amorce, énergie partagée, etc. Donc, je commence à connaître un petit peu du monde, etc. Et ce monde m'a justement incité à faire des travaux de rénovation de bâtiments publics et autres, en m'inspirant un peu quand même de ce qui était raconté, n'est-ce pas, au niveau de Négawatt, c'est-à-dire faire de la rénovation globale, performante, plutôt que de la rénovation par étapes, etc. Enfin, voilà. Alors, ça s'est plus ou moins bien passé. Hein. On a eu un petit sujet avec l'architecte des bâtiments de France qui ne souhaitait pas que nous mettions de l'isolation par l'extérieur. Ça nous a retardé 2 ans et demi pour gagner notre procès et pouvoir mettre cette isolation par l'extérieur. Mais donc, maintenant, c'est fait sur une ancienne gendarmerie. On a rénové aussi un groupe scolaire, toujours rénovation globale performante. Ça veut dire qu'il faut enlever les enfants de l'école pendant les travaux pour pouvoir vraiment jouer tranquillement. Bon, peu importe, on est maintenant engagé dans de la production d'énergie renouvelable avec aussi du photovoltaïque et on est en train de lancer maintenant, on a déjà 3 installations qui fonctionnent, mais on va en avoir 4 nouvelles et ça va être de l'autoconsommation collective. Donc on est en train d'essayer de s'accaparer effectivement le sujet du territoire à énergie positive, puisque Tramail est l'une des 6 communes, l'une des 6 collectivités à avoir créé ce réseau il y a 15 ans de territoire à énergie positive. Alors maintenant, quel est le lien avec le nucléaire au niveau de Tramail ? Jusque-là, je vais vous avouer qu'on n'avait pas trop besoin du nucléaire. Mais néanmoins, à un moment donné, j'ai été interpellé parce que, et ce moment, c'était en avril 2022, entre 2 tours d'élection présidentielle, j'ai écouté un débat entre les 2 derniers qui restaient. Et au cours de ce débat, je me suis dit, mais bon sang, si tu votes pour l'une ou si tu votes pour l'autre, de toute façon, tu vas avoir du nucléaire. Donc le choix, il était vite limité là-dessus, puisque les 2 défendaient le développement du nucléaire. Je me suis dit, il faut peut-être que je regarde, il y a peut-être un intérêt à Tramail à essayer de développer du nucléaire. Pourquoi pas ? Donc, j'ai commencé à regarder un peu plus précisément ce nucléaire, cette énergie nucléaire. Je ne m'y étais pas vraiment intéressé jusque-là. Je me suis rendu compte que c'était super. Une énergie décarbonée, très intéressante. Par rapport à ma chaufferie, un gros avantage, c'est que avec quelques grammes, j'allais remplacer quelques milliers de tonnes, quelques tonnes de bois déchiqueté. Donc, en termes de transport, etc., il y avait quand même un gros intérêt aussi. Ça me semblait vraiment intéressant. J'ai continué de gratter. Puis là, je suis tombé négawatt sur le diagramme de Sankey. Et puis, dans le diagramme de Sankey, je me suis rendu compte que dans le nucléaire, on produisait pas mal d'électricité, mais on produisait aussi pas mal de chaleur. Ah, je me suis dit, tiens, ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et donc, en continuant de gratter, j'ai déposé un brevet. J'ai déposé un brevet, non pas pour des SMR, mais des VSMR, very small. C'est-à-dire le petit réacteur nucléaire de domicile. Celui que vous mettez dans votre cuisine. Vous l'installez dans votre cuisine. Avec ça, vous vous rendez compte, vous allez pouvoir produire votre électricité et votre chauffage annuel. Donc j'ai déposé ce brevet, puis ensuite j'ai essayé de le vendre un petit peu, ce brevet. Puis là, je ne sais pas pourquoi. Mais alors, les gens, ils n'en veulent pas. Pas chez moi. Et pire, même pas chez le voisin. Donc là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et là, maintenant, je me sens un petit peu voisin du budget. Et je me dis, faudrait peut-être avoir le même type de réaction, quelque part. Bon, je n'ai pas installé de réacteur nucléaire à Tramaille, parce que je sentais qu'il y avait quand même une certaine opposition. Enfin, voilà, donc je me suis dit, bon, c'est peut-être pas très porteur, si je veux être réélu une fois, il faudra faire attention. Donc, je me suis posé des questions autour de tout ça. Et puis, en faisant toutes ces questions, j'ai eu l'opportunité de travailler sur ces sujets un petit peu au national, mais aussi au régional. Je suis dans la Creux. Alors, non, attendez, je cherche. Non, le Creux. Non, il ne faut pas confondre la Creux et le Creux. Là, c'est la commission de régulation de l'énergie, c'est au national, et le Creux, c'est le comité régional de l'énergie. Donc, ce sont deux choses différentes. Bon, donc, je suis dans le Creux en tant que personnalité qualifiée. Et puis là, ben, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Eh bien, on a travaillé sur ce qui s'appelle les zonages d'accélération de la production des énergies renouvelables. Et on a essayé de regarder, parce qu'on avait cette petite obligation au niveau des municipalités, de regarder comment on allait pouvoir implanter des énergies renouvelables dans nos territoires pour pouvoir répondre à des objectifs régionaux, nationaux, européens. En fait, on remonte l'échelle. Et la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables de 2023 demandait à chaque commune de regarder ce zonage pour voir comment on allait pouvoir. Et puis, je me suis demandé, mais pourquoi il y a cette loi-là qui vient d'arriver, là, le 13 mars 2023 ? Et là, vous l'avez dit, 2023, c'est juste après 2022. Et l'hiver 2022, il y avait quelques soucis. On se demandait si on n'allait pas nous couper l'électricité, si, etc. Et donc, le gouvernement, me semble-t-il, s'est réveillé et s'est dit, oula, on a un problème. On a ce qu'on appelle le mur de l'énergie. Le mur de l'énergie, c'est-à-dire qu'on est en train de prendre des options de développement énergétique et en particulier d'électrification de beaucoup d'usages. On peut parler de la mobilité, tout le monde a entendu parler, j'espère, de la voiture électrique, mais on a aussi l'industrialisation qui risque de consommer pas mal d'électricité. Alors tout le monde est d'accord pour dire on va faire de la sobriété, de l'efficacité, et on va réduire la consommation. Ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Pratiquement, quand on regarde les chiffres, à l'échelon national, en tout cas, on ne le fait pas. International, c'est très difficile, etc. Bon. Mais néanmoins, ce dont on se rendait compte, c'est qu'on allait au moins consommer autant. En tout cas, une chose de sûre, c'est consommer plus d'électricité. Quand je parle de plus, c'est à l'horizon 2030-2035. Et là, le gouvernement, il s'est dit, mais là, on a déjà quelques soucis en production d'électricité avec nos installations existantes. On va peut-être arriver à mettre en service un EPR avant 2030, mais l'EPR, le deuxième EPR, on ne l'aura pas avant 2030-2035. Et par contre, on va avoir besoin véritablement d'électricité. C'est pour ça qu'ils ont demandé à toutes les collectivités territoriales de regarder, dites, vous ne pourriez pas faire une petite part, là, de votre côté, installer un petit peu d'énergie renouvelable, là, produire un petit peu d'électricité, regardez vos zonages. Voilà. Ce qui a conduit, effectivement, à faire des zonages communaux, puis à remonter dans une commission régionale de l'énergie. Alors, ce que je peux vous dire de cette commission régionale de l'énergie, c'est que ça m'a permis de comprendre que sur mon territoire, j'allais peut-être pouvoir produire de l'électricité, mais alors pas avec du nucléaire. OK ? Donc, je vais pouvoir produire de l'électricité avec des panneaux photovoltaïques. Très bien. Sauf que là, en faisant mes petits calculs, parce que maintenant, on a plein d'outils, il y a des outils en ligne, etc., vous pouvez savoir pour chaque commune ce qu'elle consomme, ce qu'elle produit, quel est son taux, je dirais, d'autosatisfaction, qui généralement est très bas. C'est-à-dire qu'en Saône-et-Loire, par exemple, la Saône-et-Loire produit à peu près 7 5% de l'énergie qu'elle consomme. OK ? Vous coupez certains fils, la Saône-et-Loire ne fonctionne plus. Il faut en avoir conscience. On n'est pas du tout dans une notion d'autonomie énergétique. Et puis, ça se retrouve pareil sur les communes, etc. On est loin d'être des territoires à énergie positive. Après, si vous me mettez une centrale nucléaire à Tramail, alors là, super, hein, je serai plus que territoire à énergie positive. Mais personne n'en veut. Donc, autre chose, je m'intéresse au photovoltaïque. Sauf que maintenant, le photovoltaïque à Tramail, avec quelques installations, c'est-à-dire 7-8 installations municipales, des toitures de particuliers et deux toitures agricoles, eh bien, on produit 15% avec ce photovoltaïque, on produit 15% de ce que nous consommons annuellement pour toute la commune en électricité. Et là, je trouve que je suis au taquet de ce que le photovoltaïque peut m'apporter, parce que quand je regarde ma consommation annuelle et que je sais que le photovoltaïque il produit le jour, pas la nuit, et principalement en été, et que je regarde ma consommation le jour en été, eh bien, c'est à peu près 15% de la consommation annuelle. D'où l'idée qui a choqué beaucoup de personnes et qui continue d'en choquer, mais ce n'est pas grave, de zoner sur de l'éolien pour essayer de faire du mixte énergétique et essayer d'aller plus loin dans l'autoproduction d'énergie au niveau commun. Donc on est, je dirais, en pleine étude en ce moment. On est associé à 3 communes sur un projet de développement d'éoliennes sur notre territoire pour essayer à terme d'augmenter notre indépendance énergétique et puis surtout d'intégrer les citoyens dans le projet. Je vous ai dit que je faisais partie d'Énergie Partagée. Énergie Partagée est dans la société de projet. Et puis aussi, de bien regarder comment cette énergie produite sur le territoire va pouvoir être redistribuée aux habitants du territoire sous une forme à définir. On commence à avoir de plus en plus de liberté. Les lois évoluent progressivement. Donc, on espère bien arriver à faire quelque chose qui ait du sens localement. Je termine en disant que tout à l'heure, j'étais à la réunion sur le nucléaire militaire. Et en fait, on a tout de suite assez rapidement dérivé sur... quand il y a un conflit, on peut avoir des bombes qui nous tombent dessus, des bombes nucléaires qui nous tombent dessus, mais on peut aussi avoir des drones qui viennent carrément attaquer la centrale nucléaire. Et donc, en fait, même le nucléaire civil, en cas de conflit, devient aussi un enjeu militaire. Et donc, la sécurisation, elle n'est pas toujours très, très simple. Et puis, surtout, quand vous avez une centrale nucléaire qui tombe en panne, ce n'est pas 1063 habitants qui sont concernés. Voilà, je laisse la suite.
Juste quand même un petit tac au tac, parce que en fait, tu parles beaucoup de production, tu as oublié tout ce que tu as pu mettre en œuvre sur la sobriété énergétique. Et vu qu'on est le 11 octobre, jour de la nuit, peut-être nous dire combien tu payes de factures en tant que maire sur l'éclairage public à Tramail. Ça dit aussi la facture électrique des communes sur l'éclairage public, c'est 40% de la facture électrique d'une commune.
Non, on est largement en dessous pour différentes raisons. Tu évoques le jour de la nuit, c'est-à-dire l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Ce soir, venez à Tramail. Vous aurez droit au ciel étoilé. On va éteindre complètement. On va en profiter pour se promener dans les rues, regarder le ciel et puis entendre parler par la LPO des chiroptères, etc. On va en profiter pour discuter avec Natura 2000. On va en profiter pour discuter un petit peu biodiversité, etc. Pour revenir à ta question, j'ai pas les chiffres en tête. Tout ce que je sais, c'est que nous avons, depuis 2008, pratiqué l'extinction de l'éclairage public. Donc là, ça nous a permis de baisser quand même pas mal nos factures. Et que nous venons tout récemment de mettre les LED. Avant, on n'avait pas encore mis les LED. Ben non, parce qu'en 2008, quand je discutais avec le syndicat d'énergie, ils me disaient « Oh non, les LED, on ne sait pas ce que c'est, on ne connaît pas bien, c'est tout nouveau. » Ils ne m'incitaient pas à mettre des LED. Bon, voilà. Maintenant, ça y est, ils sont d'accord. Et donc, effectivement, on a très sérieusement réduit notre consommation, je dirais, globale. Ce que je peux dire aussi, parce que ça, je l'ai en tête, j'ai regardé ce qui s'est passé entre 2007 et 2017 sur la consommation électrique de la commune. Ce n'est pas les euros, moi, qui m'intéressent. Je suis désolé, c'est les kilowattheures et indirectement les tonnes CO2 émises ou évitées. C'est plutôt ça, moi, qui m'intéresse. Je suis un mauvais maire. Et donc, 2007, on était à 400 mégawattheures de consommation d'électricité pour les bâtiments, pour la chaufferie, pour l'éclairage public. 2017, on est passé à 117 mégawattheures. On a divisé par presque 3,5 notre consommation d'électricité à l'échelon communal. On essaye d'appliquer autant que se peut le scénario négawatt, le triptyque, donc sobriété, efficacité, renouvelable. On essaye de l'appliquer au... Et je précise que nous n'avons pas augmenté le budget bougie.
Parfait. Ça sera pour demain, la messe. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous... je ne vois pas de main se lever? Non, c'est toujours la première question qui est difficile. Peut-être faire un petit focus sur le budget. Si tu m'as dit que tu avais participé à une des sessions, il y a eu un débat public en début d'année pour évoquer l'opportunité, sachant que dans la tête d'EDF, une opportunité, c'est déjà une décision, mais sur les deux EPR du budget, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Est-ce que...
Il y a surtout des associations locales, en particulier Centrale Nucléaire Bugey, qui ont été extrêmement actives. Nous, on a simplement donné quelques indications, participé à un cahier d'acteurs, mais sur les aspects, notamment changement climatique. Là, les choses ont été particulièrement bien faites. Donc, je ne peux pas dire plus sur le Bugey, qui est certainement un des sites les moins adaptés à la mise en place de deux réacteurs de type EPR2, à la fois du point de vue du refroidissement, du point de vue donc de la disponibilité en eau, et du point de vue aussi du positionnement par rapport aux deux métropoles ou aux deux ensembles qui sont Lyon et Genève. Voilà.
Je voudrais préciser que sur les projets des EPR2, que ce soit Gravelines, le Bugey ou Penly en Normandie, à chaque fois, ce sont des lieux où la résistance locale n'est pas au rendez-vous, en tout cas pas à la hauteur. C'est-à-dire qu'à Dunkerque, enfin Gravelines, pardon, c'est face au port de Dunkerque, c'est un pôle industriel très important, c'est aussi un pôle industriel l'industrialisation de la décarbonation, si vous voulez, parce qu'il y a quand même des usines qui vont beaucoup consommer et qui sont en train d'être construites. Donc à la fois, il y a une friterie qui envoie des frites en Arabie Saoudite et à la fois, vous avez des usines pour produire des batteries ou recycler des batteries qui arrivent, qui ne viennent pas. Enfin, on verra, mais bon, bref. Donc, il y a un besoin. J'ai rencontré des gens de la commission locale d'information, donc de la CLI de Gravelines. Les élus sont à fond. À part les associations classiques de l'environnement, de défense de l'environnement, les Greenpeace, les FNE, bon, il n'y a pas d'opposition, jamais. Les élus locaux sont ravis, même appellent de leurs vœux, quelque part, quelque chose comme ça. Quand bien même les chantiers de ces EPR2, rien que les chantiers, je ne vous parle pas du raccordement des centrales concernées. ne serait-ce que les chantiers, ce sont 6 000, 7 000, 10 000 ouvriers qui vont venir sur ces territoires-là durant à peu près une dizaine, quinzaine d'années. Vous devez reformater les routes, parce que pour faire transporter les matériaux de construction, vous devez modifier les PLU, trouver de quoi loger les personnes, que ce soit des logements qui pèsent pas non plus. Enfin, vous voyez les problématiques qu'on a sur le logement en France. Il faudrait du logement temporaire, mais pas du Airbnb, mais que les locaux puissent se loger quand même et que ça ne fasse pas exploser le prix du mètre carré. Bon, il y a plein de problèmes annexes qui sont les problèmes de chantier, de construction. D'ailleurs, ce nucléaire, ce sont des histoires de chantier, de BTP pur et dur, avant le premier raccordement. Et c'est important de le signaler parce que on est quand même là face à des gens qui ne savent plus faire. On ne revivra jamais avec 6, 14 EPR2 ou alors même 35 EPR2 appelés des vœux par le RN. Hein. Sachez que le RN, c'est 35 EPR. Hein. En type hors sol, de balancer des chiffres aux gens comme ça, ils se posent précisément là. Moi qui connais bien le nucléaire, je peux dire que c'est... Mais ahurissant d'entendre, on va faire 35 EPR. Donc j'imagine que sur les autres dossiers, ça doit être du même acabit. Quoi qu'il en soit, petit ainsi, quoi qu'il en soit, ce sont des histoires de chantier et ils ne savent plus faire. Il n'y a plus les compétences, il n'y a pas le désir des jeunes d'aller forcément travailler comme ça là-dedans. Donc il y a un petit problème là humain. Et ces chantiers qui arrivent, moi ce qui m'intéresse, c'est toujours de regarder dans le rétroviseur comment ça s'est passé jusqu'à présent. Donc, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'un EPR en Finlande, il a 12 ans de retard et il passe à 12 milliards d'euros au lieu des 3 qu'on lui a vendus. On a quasiment mis le couteau sous la gorge des Finlandais pour qu'ils prennent un EPR. Mais enfin, ils l'ont pris et ils ont dit au-delà de 3 milliards d'euros, c'est pour vous, les Français. Ça a été pour nous et donc faillite d'Areva. Au-delà de la Finlande, il y a 2 EPR qui ont été construits à Taishan. Ils ont également eu 3-4 ans de retard, ce qui n'est rien. Évidemment. Mais ce qui est beaucoup en Chine, alors que la main-d'œuvre est totalement corvéable à merci et que vous avez des quantités de personnes que vous pouvez déplacer de votre pays pour avoir des ouvriers pas chers en quantité astronomique formés en plus par des gens d'EDF, donc c'est sympa. Mais quoi qu'il en soit, 4 ans de retard quand même. Et puis, moi, celui que j'adore de chantier, c'est celui d'Inkley Point en Grande-Bretagne. Je l'adore pourquoi ? Parce que alors, celui-là, il a explosé les compteurs en termes d'arithmétique. On est maintenant à 28 milliards. Le réacteur, à ce jour. Et ce n'est toujours pas terminé. Et on nous dit que ce sera terminé en 2031. Donc même pas demain. Et à 28 milliards, c'est un EPR. Donc moi, je vous avoue que c'est un univers quand même qui est fascinant parce que les chiffres ne veulent plus rien dire. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Comme personne n'y croit, elles n'engagent plus à rien de la société. En revanche, c'est là, c'est très présent et ça occupe, comme un éléphant dans la pièce, l'intégralité du débat sur les énergies.
Et qui est-ce qui paye là-bas, à Inkley Point ?
Alors, Inkley Point, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a eu un contrat qui a été signé et l'engagement qui a été pris, c'est que l'État britannique va acheter l'électricité pendant 35 ans à 90 pounds le mégawatt-heure. Il faut savoir que 90 pounds le mégawatt-heure, c'est 120 euros le mégawatt-heure. Et qu'à ce jour, vous êtes à 60 euros de coût de production le mégawatt-heure, l'ensemble qui sort du parc actuel, qui est amorti depuis 40 ans. Et on ne vivra jamais ce qu'on a vécu dans les temps anciens, c'est-à-dire on construit un réacteur en 5 ans. À 1 milliard de francs pièce. 1 milliard de francs pièce. Ça fait rire, mais c'est pas drôle.
Et il faut compter aussi que, au-delà de Hinkley Point, qui est effectivement en construction, qui est déjà en retard, il y a d'autres projets, Sizewell C, qui sont bien partis pour être. Ils sont pas signés encore.
Qui sont pas encore signés, mais ils sont partis.
Mais qui sont bien partis pour. C'est-à-dire qu'il y a. Il y a une espèce de masochisme là, qu'on a bien du mal à comprendre. Et encore une fois, là, je ne sais pas du point de vue de financier ce que ça représente.
Des énergies renouvelables, c'est combien à peu près ?
Alors, ça a baissé constamment depuis le milieu des années 2000-2010. On est passé de 300... Je vais vous parler en dollars parce que ce sont les chiffres de la Banque Lazare que j'ai en tête, mais peut-être Bruno, tu as les chiffres plus récents. Mais Thierry, pardon. On est à 300. Maintenant, on est descendu à moins de 40 euros le mégawattheure pour du solaire. C'est ça. Et de l'éolien, on est à peu près un peu au-dessus du solaire. On est à 70 euros le mégawattheure. Le nucléaire amorti est à 60 euros le mégawattheure. Le nucléaire à venir, lisez-le dans le rapport de la Cour des comptes sur la filière EPR sorti le 14 janvier 2025. On est à 176 euros le mégawattheure qui sortira d'un EPR si on veut un taux de rentabilité à 6%. Si on veut un taux de rentabilité à 2%, c'est-à-dire nul, eh ben à ce moment-là, on peut vendre le mégawattheure de l'EPR à 120 euros. Rendez-vous compte, je sais que toi, tu as dit un truc intéressant. Excusez-moi, vous, monsieur le maire, vous avez dit un truc intéressant. Je n'aime pas les questions d'euros. Mais ce qui m'a intéressé dans l'histoire du futur nucléaire, c'est qu'un truc qu'on ne nous dit pas, c'est qu'on a donc un parc qui produit, qui est ancien, qui va bientôt fermer, qui produit à 60 euros, donc 6 centimes le kilowattheure chez vous. On a un EPR qui sort de l'électricité en gros à 150 euros, 15 centimes, quasi fois 3, le kilowattheure chez vous. Et on nous dit qu'on va devoir consommer plus de kilowattheures pour nos voitures, pour nos logements, pour notre chauffage, pour voilà, on va décarboner, électrifier plus, mais avec un prix du kilowattheure qui va exploser. Ça, ce côté prix en étau, personne n'ose venir nous le dire publiquement. Dans 15 ans, votre électricité à 20 centimes d'euros le kilowattheure, ce sera un doux souvenir. Et c'est ça qui est dingue, parce que, OK, nous, les écolos convaincus, antinucléaires de longue date, enfin, en tout cas critiques vis-à-vis ou distancés vis-à-vis de la technologie, on sait qu'il va falloir économiser l'électricité. Mais la plupart des Français, je rappelle qu'il y a 11 millions de Français qui sont en situation de précarité énergétique, subissent le prix du kilowattheure à la fin. On n'a pas d'autre choix que de recevoir la facture et de la payer. Et autant pour 3 centimes d'écart sur le prix d'un litre, on a eu des gilets jaunes, je n'ai vu aucun gilet électrique dans la rue pour nous dire, mais attendez, c'est passé là en 2022 à aujourd'hui, en gros, en 10 ans, votre électricité, elle a pris 40%. En 4 ans, elle a pris 40%, et en 10 ans, elle a pris encore plus. Donc c'est quand même quelque chose d'important. À la fin, il y a des gens, j'imagine aussi dans votre commune, ou bah, je ne peux pas payer ma note, quoi. Même s'il y a la chaufferie, de la scierie, nanani, nanana. Je ne peux pas payer ma note, je ne peux pas avoir tout le confort qui fait que bon, aujourd'hui, tout est électrifié. Voilà. Et je voulais juste aussi préciser un truc. Vous savez, journalistiquement, des fois, il y a des gens, ils vous disent des trucs et ça reste à vie. Quand on débattait sur la question de l'opportunité de l'EPR, moi, j'étais en 2005 à Libé. Je suivis beaucoup les discussions autour de la loi de politique d'orientation sur la politique énergétique. Et quelqu'un de chez Bouygues, qui faisait des chantiers nucléaires, me disait « Bon, ils vont le vendre à 3 milliards. Très bien. Madame, sachez que dans ce genre de chantier, on multiplie toujours par pi. » Donc 3,14. Bah, en fait, là, on a multiplié par 2 fois pi. Et enfin, vous avez noté à quel point c'est un endroit où les largesses et le fait d'être hors sol économiquement est totalement pardonné. Et je trouve que ça fascinant de ce que ça dit de cette fascination vis-à-vis du nucléaire.
Moi, j'entends la controverse sur les coûts. J'aimerais bien vous entendre sur les évaluations. On a mené un travail avec mon collègue Oliver Charles sur les approximations des évaluations de consommation. On est allé voir les scénarios RTE ces 20 dernières années. En fait, on est dans une espèce de scénario performatif. On va consommer plus, donc on va consommer plus. C'est de l'ordre de la tautologie. Sauf que, en fait, quand on regarde en réalité, à chaque fois, RTE nous dit on va augmenter d'un facteur pi. On a toujours des courbes qui décollent comme ça. Et en fait, en réalité, ces 20 dernières années, la consommation électrique de la France a augmenté de 3 TWh. C'est peanuts. Et EDF nous dit aujourd'hui, et RTE nous dit, que dans les 10 prochaines années, on va augmenter de 180 TWh. Et incidemment, on suit quasi quotidiennement l'augmentation de la consommation, mensuellement, annuellement. Ces 3 dernières années, abstraction Covid, ces 5 dernières années, cette année, on augmente de 1 TWh à date. L'année dernière, on a baissé. L'année d'avant, on a encore baissé. L'année d'avant, on a encore baissé. Donc, en fait, comment vous expliquez le fait qu'on va assister à une augmentation qui, historiquement, n'a jamais été vue ? C'est y compris dans les belles années de Castor Cobatir, les maisons Bouygues non isolées avec des convecteurs électriques, on a augmenté d'une dizaine de térawattheures par an pendant 5 ou 6 ans, là où on nous dit on va augmenter de 14 à 15 pendant 15 ans. Est-ce que vous... Je ne sais même pas si on dit est-ce que vous y croyez. C'est, est-ce qu'à un moment, vous intériorisez cette notion de on va beaucoup augmenter, mais d'un facteur jamais vu.
Ma réaction là-dessus est qu'en France, on a tendance à confondre énergie et électricité. Et quand on parle énergie, je l'ai encore vérifié hier sur une vidéo, Henri Proglio, ancien directeur général d'EDF, disait « Nous avons une énergie décarbonée en France ». C'est totalement faux. C'est totalement faux. Nous avons une énergie carbonée à 60%. 60% de notre énergie est carbonée. Moi, c'est ce que m'a dit la ministre en 2013. Mais on a cette confusion entre l'électricité et l'énergie. Et on peut avoir effectivement des stagnations de la consommation d'électricité. Ce que je constate, c'est que notre consommation d'énergie continue. On augmente encore la consommation d'énergie. Et comme cette énergie est carbonée, eh bien, je suis désolé de vous dire, mais que nous sommes très très loin d'être sur la bonne trajectoire vis-à-vis de nos engagements à l'échelle européenne ou autre. Ça fait quand même plus de 50 ans que nous avons des scientifiques, commencé par le Club de Rome, c'était 1972 ou 73, plus de 72. Plus de 50 ans que nous avons des scientifiques qui nous disent on a un problème d'émissions de gaz à effet de serre. Et tous les ans, tous les deux ans, le GIEC ou autre nous en remet une couche en disant « faut faire quelque chose ». Et que nous continuons, à l'échelon mondial, de produire encore des émissions de gaz à effet de serre en augmentation. Et là, je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à faire des choses sur la décarbonation. Et je reviens volontiers au scénario négawatt parce qu'on a les solutions dans le scénario négawatt. Mais on ne les applique pas. Et ça, c'est catastrophique. Et je reviens une toute petite chose sur les aspects financiers, parce que ça a été évoqué à un moment donné. Placer de l'argent dans l'isolation des bâtiments, etc. Il faut regarder le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, qui a été fait toujours en 2013. Hein, c'était il y a deux ans. 2023, oui. Oui, j'essaie de me rajeunir. Bon, et donc... Là, très clairement, on nous dit, mais les milliards, il faut les placer sur la sobriété, sur la rénovation des bâtiments, etc., si on ne veut pas plomber complètement l'avenir de nos enfants et de notre humanité, quoi. Et c'est là qu'il faut vraiment investir. Or, qui le fait ? Qui le fait ? Toutes les fois qu'on discute de budget ou de quoi que ce soit, on essaye de gratter à droite, à gauche, de faire des économies. Donc, il ne faut surtout pas dépenser plus, sans se rendre compte que les milliards d'euros qu'on pourrait mettre, entre autres, sur la rénovation des bâtiments, ça va être des centaines de milliards d'euros économisés plus tard, et surtout des vies gagnées.
Oui, historiquement, il faut se souvenir que le programme Messmer 74 a été fondé sur une croissance d'électricité de 7% par an. Et donc, effectivement, on est très fiers. On démarrait 5 réacteurs par an, etc. 7% par an, donc doublement tous les 10 ans. Juste après la crise, quand même, parce que c'était censé remplacer le pétrole. Et donc, des investissements colossaux, un effet d'éviction considérable. Et 50 ans plus tard, on n'a rien appris. Mais à l'époque, le PDG d'EDF s'appelait Marcel Boiteux. Aujourd'hui, ce n'est plus Marcel Boiteux, mais c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que l'EDF est toujours parmi les 5 ou 6 entreprises préférées des Français. Donc, mais c'est quand même là aussi que RTE, c'est bien une projection maison. Et donc, comment faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui sortir de ce travers qui nous conduit à des investissements tout à fait considérables?
Je voudrais préciser que RTE, Réseau Transport d'Électricité, a tout de même travaillé sur 6 scénarios. Non, n'oubliez pas tout de même que sur la totalité des scénarios, il y a un scénario consacré à la sobriété. Et que je ne vois pas pourquoi, de fait, on lâcherait ce scénario-là. Voilà, donc n'oubliez pas ça. Rendez à César quand même un peu ce travail. Il y a quand même 3 scénarios sur nouveau nucléaire, un maximaliste et un qui est celui qui est suivi actuellement, et puis un scénario aussi sur la sobriété. L'ADEME a travaillé sur des scénarios liés, 4 scénarios sur aussi la question de la sobriété. Donc on a les outils, voilà. Mais je ne sais pas si ce qui s'est produit hier, c'est-à-dire un loupé hein, dans la divination de la projection des consommations électriques des Français, va se reproduire aujourd'hui. C'est-à-dire, en gros, on aurait tablé sur une augmentation de la consommation de 7 à 10% par an chez les Français, qui n'aurait pas été, mais demain, du coup, ça ne va pas se passer comme ça. Je ne sais pas, parce que cette fois-ci, on a 33 millions de véhicules qu'on veut passer à l'électrique. Alors même si on ne les passe pas les 33 millions dans l'intégralité, il y en aura quand même 20 millions à la fin, enfin en tout cas les scénarios mis sur 20 millions de véhicules électriques. Donc on se débarrasse des fossiles mais on rentre dans autre chose. Et donc ça c'est une réalité, enfin, voilà. Sauf à questionner le droit au déplacement individuel quand on veut, comme on veut, avec sa voiture individuelle, etc. etc. Bon, ça c'est encore une autre discussion, mais on a de fait une envie de passer du fossile, du gaz pétrole, à du kilowattheure.
C'est ce que je constate, moi. C'est qu'on a globalement la mauvaise habitude, quand on a beaucoup d'électricité, à la gaspiller. Et en fait, le fait de se projeter en disant aujourd'hui, on est à 430 TWh, en 2035, on sera à 640, vous pouvez faire ce que vous voulez et à peu près n'importe quoi, parce qu'on aura énormément d'électricité. En conséquence de quoi, on se retrouve avec des voitures électriques qui pèsent 2 tonnes, qui peuvent aller à 230 km/h, qui vont nous permettre, enfin, l'effet rebond classique. Et à l'évidence, c'est l'exemple de 2022, à l'instant où on entend Panier Ruinaché nous parler de sobriété. Pourquoi ? Parce qu'on a un problème de corrosion sous contrainte, les réacteurs nucléaires ne peuvent plus produire suffisamment d'électricité, et là, du coup, on demande aux Français une politique...
Et les barrages sont à sec.
Et les barrages sont à sec, donc du coup, il faut mener une politique de sobriété. Et le fait de laisser s'installer ce discours de avec 6, 8, 14 EPR, et puis des parcs éoliens, et puis la montée en puissance du photovoltaïque, nous n'avons plus besoin de politique de sobriété énergétique, voire on commence à laisser s'installer, sans débat public, on va installer des data centers un peu partout, parce qu'en fait, la France, c'est le paradis de l'électricité. Et en fait, à nouveau, la problématique de est-ce qu'à un moment on débat de la capacité, pas simplement en technicien productiviste, mais de quoi nous avons besoin. Et en fait, pour moi, je fais vraiment le parallèle entre la situation politique, la situation énergétique, où en fait tout est imposé au niveau national, où en fait vous regardez de façon un peu hallucinée ce qui se passe, et vous vous dites, en fait, les choix sont pris. Et à quel moment, nous, en tant que citoyens usagers, on a la possibilité d'intervenir dans ce débat public? C'est pour ça qu'en fait, l'échelon local, il est hyper important, parce que en fait, l'électricité, c'est juste j'appuie sur on, j'appuie sur off. C'est à peu près tout ce qu'on vous demande. Et à l'instant où, en fait, et c'est tout l'intérêt des projets éoliens portés par Énergie Partagée, c'est de dire, en fait, je suis épargnant, et en fait, j'ai mon mot à dire dans les investissements qu'on opère au niveau local.
Et un des gros avantages aussi, si on arrive effectivement à revendre en local cette énergie, ça va être la stabilité des prix pendant la durée d'exploitation de l'équipement. On connaît le prix sur 20 ans, sans problème. Poutine, il pourra faire ce qu'il veut. Ça m'étonne qu'il envoie un drone sur notre éolienne. Il aura d'autres choses à faire, d'autres chats à fouetter. Donc, il va nous laisser tranquilles. Et notre installation, elle va continuer de produire tranquillement.
Voilà. Ben, merci pour ce débat. Est-ce qu'on peut, juste avec des éoliennes et des photovoltaïques, couvrir toute la France et répondre à nos besoins, en sachant qu'on a, par exemple, les barrages, etc., oui, qu'il faut prendre en compte. Et puis voilà.
Si vous regardez, alors, il y a plusieurs scénarios qui ont été cités, hein, RTE, ADEME, Négawatt. Pratiquement tous les scénarios prévoient une augmentation de la production éolienne, pratiquement presque le doublement du nombre ou de puissance. Pratiquement tous sont là-dessus. Tous travaillent sur du mixte. C'est-à-dire qu'il y a de la complémentarité avec l'hydraulique qui va peut se développer a priori parce qu'on est déjà un petit peu, non pas en saturation, mais quasiment. Et de plus, on commence à avoir des problèmes d'approvisionnement en eau. Donc, où allons-nous ? Voilà. Ce qui peut aussi poser problème au niveau de la biomasse avec les forêts qui sont en train de se dégrader à cause du dérèglement climatique, etc. Il faut pouvoir jouer sur toutes les chaînes. Il ne faut pas perdre de vue qu'on parle d'énergie, non pas simplement d'électricité, et que la biomasse est un très très gros apport en termes de chauffage, en particulier en milieu rural. Donc c'est extrêmement important ça. On peut parler de méthanisation, on peut parler de géothermie, faut faire vraiment du mixte, il faut vraiment travailler sur du mixte et arriver à obtenir une production avec différentes formules, et puis, sans doute, lancer aussi des unités de stockage, mais aussi réguler notre consommation en fonction des instants de production. Et là, on commence à avoir des solutions de pilotage à distance, ou de etc. Et puis, moi, par exemple, ma petite voiture électrique, bientôt, je ne vais pas simplement la brancher à la maison pour tirer le courant électrique de ma maison vers la voiture. Entre parenthèses, j'ai des panneaux photovoltaïques, donc je surveille à faire ça en pleine journée, par exemple. Mais aussi pour que cette voiture m'alimente la nuit. S'il y a un prix d'électricité élevé à 19h, je vais récupérer de l'énergie sur ma batterie. Et puis ensuite, à 2h du matin, quand il y a de l'électricité pas trop chère, ma batterie va se recharger. Et donc, ça va permettre de lisser un petit peu tous ces pics qui sont certains phénomènes pointés du doigt par les opposants au développement des énergies renouvelables. Les solutions commencent à apparaître, les pilotages existent, ça se met en place progressivement.
Oui, juste un mot. Finalement, je pense que les prévisions qui ont été faites sont à architecture historique. Vous avez évoqué l'autoconsommation collective, par exemple, qu'on a commencé, on s'y intéresse beaucoup à Global Chance, où on voit fleurir le nombre de projets en plein Paris, hein, des panneaux solaires qui fleurissent partout. Mais ce n'est pas les panneaux solaires, c'est le fait que tout ça rentre dans un système. Et ce système-là, pour l'instant, c'est surtout des systèmes qui sont pilotés par des associations. Pour peu que les communes s'y intéressent, donc vous êtes tout à fait l'exemple, et ça peut changer l'architecture du système électrique et énergétique, parce qu'il y a bien sûr des synergies entre les différents usages en différentes énergies, peut changer énormément et beaucoup plus vite, et rendre effectivement peut-être obsolète, là, encore se retrouver face encore à une surproduction électrique. Alors on a exporté 90 TWh quand même l'an dernier, mais les autres Européens ont aussi font aussi beaucoup d'efforts en matière de système énergétique et vont consommer beaucoup moins.
J'ai un tout petit commentaire sur l'ACC, autoconsommation collective, pour dire que c'est pas la commune qui va gérer ça. Non. Mais on travaille avec le syndicat départemental d'énergie. D'accord. Qui va nous mettre en place la personne morale organisatrice et avec qui on va travailler. Nous, on va produire de l'électricité. On va l'autoconsommer sur les bâtiments municipaux. Oui. Mais on est aussi en train de regarder pour associer dans les consommateurs l'EHPAD, qui pour nous est le super bon client, parce qu'il ne ferme pas le mois d'août comme une école. Et puis en plein été, et puis même le dimanche, ils consomment encore de l'électricité. Voilà.
Pour expliquer ce que c'est qu'une boucle d'autoconsommation collective, vous voyez ou pas ce que c'est? Oui. Ouais, je voudrais préciser parce que vous en parlez comme si tout le monde était au courant.
Monsieur, autoconsommation.
Peut-être, collective. Voilà, vous, comme tu veux.
Mais vas-y. Non, mais, vous la connaissez mieux parce que vous avez vous-même un système comme ça.
On est en train de le mettre en place. Hein, c'est-à-dire que d'un côté, on a des producteurs à partir de panneaux photovoltaïques ou autres. L'éolien pourra en faire partie, peu importe. Des producteurs d'énergie. Ces producteurs vont ensuite revendre cette énergie, tout ou partie, l'idéal c'est tout, à des consommateurs. Et il faut qu'il y ait un lien entre producteur et consommateur, c'est la personne morale organisatrice. Oui, oui. Tout ça, ça va passer en utilisant les réseaux, c'est-à-dire qu'on utilise à nouveau les fils électriques qui nous relient les uns aux autres. Et donc, on va, entre parenthèses, payer une taxe d'utilisation des réseaux à Enedis, entre autres, pour pouvoir utiliser ces réseaux. Mais on peut rester dans des boucles plus ou moins locales. On parle de 20 km, on parle du territoire de la communauté de communes, on parle de etc. Et sachant que tout ça, c'est en train de s'agrandir, ces tailles. Au fur et à mesure des arrêtés, au fur et à mesure des lois qui arrivent, on voit que ça commence à devenir de plus en plus souple. Alors, pour l'instant, on essuie des plâtres. Hein. On a bien conscience que c'est de la mise en place un petit peu laborieuse. C'est pour ça qu'on se fait aider par un syndicat d'énergie. Mais progressivement, ça va devenir plus simple.
Je reformule. En gros, on met en commun des toitures. On y met du photovoltaïque. Et en plus, cette boucle va produire l'électricité. Et l'électricité arrivera en priorité localement chez ceux qui font partie de la boucle. Voilà. Alors. Donc ça veut dire qu'il y a des vides. Voilà. La mise en commun de différentes toitures, qu'on soit une collectivité locale, un particulier, une entreprise, une association.
Les rencontres, il y a quelque chose d'assez magique dans ces rencontres. Il y a 2 jours, en fait, on avait dans le public Claude Turne, qui est député européen et ancien ministre du Luxembourg, député européen vert, ancien ministre du Luxembourg, qui avait lancé beaucoup d'initiatives sur les énergies renouvelables. Et dans le public, on a Thierry Salomon, qui est l'ancien président de Negawatt et qui, du coup, voulait prendre la parole. Je lui donne avec grand plaisir.
Merci. Et oui, non, ils sont devenus un peu blancs aussi. Ils commencent. Merci en tout cas d'avoir cité Negawatt plusieurs fois. Donc ça me permet de vous donner quelques informations toutes récentes, puisque on est en train de travailler notre 6e scénario. Le premier était 2003, et on en prépare un en gros 6 mois avant chaque présidentielle. Alors évidemment, là on est un peu. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais en tout cas, on se prépare. Voilà. On a eu la semaine dernière tout un travail sur 15 experts par rapport à un scénario 2025, 2027, 2070, parce que c'est cet horizon-là qu'il faut avoir. Par rapport à ce qui a été dit, il y aura effectivement une augmentation de l'électricité, de la consommation d'électricité, de l'augmentation de la consommation d'électricité. Pourquoi ? Parce qu'il y a nécessairement des transferts à réaliser du fossile vers l'électrique. Cela étant, il n'y aura pas nécessairement une énorme augmentation de consommation. Par exemple, le dernier scénario Negawatt était le premier sur lequel il y avait un peu plus de consommation à 2050 que sur 2019, de l'ordre de 10% à peu près. Il y a, sur l'ensemble des scénarios RTE et ADEME, etc., il n'y en a qu'un seul qui est un peu plus bas. Alors par contre, là vous avez raison, c'est qu'on nous amène maintenant des scénarios sur lesquels c'est presque un doublement de l'électricité qui sont amenés, 75%, pratiquement 100% de plus. Ça, c'est complètement aberrant. Un petit peu plus d'électricité, pas de problème. Par contre, ça veut dire que quand même, il faut derrière le produire. Et ça veut dire aussi de l'éolien, ça veut dire aussi évidemment du photovoltaïque. L'idée, bien entendu, c'est de le faire au mieux, au plus intéressant. Et en ayant les moyens et les mécanismes, notamment de régulation, permettant de faire en sorte qu'effectivement, on soit bien... avec de premier ordre la sobriété et ensuite l'efficacité, les deux. Voilà. globalement, on arrive à c'est la bonne nouvelle, si vous voulez, c'est qu'on arrive toujours à un scénario de sortie du nucléaire aux alentours des 2050-2055, à peu près. Et de plus en plus, on est maintenant assuré. Enfin, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'au fur et à mesure de nos deux scénarios, on est de plus en plus assuré sur le plan technique, sur le plan technologique et sur le plan des coûts. Là où ça devient c'est plus difficile, c'est en termes d'appropriation, en termes de concurrence avec le sol, avec la biodiversité, etc. Et évidemment, des éléments sociaux. J'aurais terminé en disant qu'il y a un point, je sors de la conférence tout à l'heure sur la défense, et il me semble qu'il y a quelque chose qu'il faudrait aborder au niveau des écologistes, de façon générale, de façon un peu plus forte, c'est celle qui consiste à se dire, mais un scénario de transition énergétique écologique, c'est aussi un scénario de paix. C'est-à-dire, c'est un scénario qui augmente considérablement la robustesse, la résilience dans tous ces niveaux. Par exemple, lorsqu'on fait une rénovation énergétique très importante, ben derrière, on va diminuer la consommation de l'ordre de 4, un facteur 4, 5, 6. On arrive même à faire maintenant des bâtiments sans chauffage ou pratiquement sans chauffage. Un de nos fondateurs, qui est ingénieur dans le bâtiment depuis très longues années, vient de faire une réalisation qui est une maison individuelle extrêmement classique, banale, etc. Et puis, il a été un peu loin dans tout ce qui relève du chauffage, de l'eau chaude, etc., pour diminuer les consommations. À prix normal, hein, c'est-à-dire pas deux fois ou trois fois plus cher. Et c'est loué actuellement par des gens qui ont une division par 4, 5, 6 de leur facture énergétique. Il a appelé sa maison la poutinière. Bon, ce qui était une très, très belle idée. En gros, c'est je fais un pied de nez à Poutine. Tu m'emmerdes avec ton gaz, avec ton uranium, et on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Donc, on peut être, à mon avis, beaucoup plus résilient. Et c'est la même chose. On pourrait développer. C'est la même chose sur le numérique, c'est la même chose sur l'alimentation avec les circuits courts, etc. Tous les éléments de la transition énergétique et écologique sont en réalité des éléments qui peuvent participer à une sorte de défense par rapport à des risques militaires, bien entendu, mais aussi géopolitiques. Et donc, on devrait maintenant frapper à la porte du ministère de la Défense en leur disant il faut que vous financiez ça. Voilà.
Je rejoins totalement parce que si on a notre indépendance énergétique, production locale, etc., quelque part, les extérieurs, entre guillemets, ils n'ont plus d'intérêt à venir nous spolier nos ressources, etc. Quoi. C'est-à-dire, et les conflits que l'on voit, c'est souvent pour s'accaparer un territoire qui a des ressources. Ce n'est pas pour faire plaisir. C'est pour essayer de récupérer les ressources. Donc, si chacun arrive à gérer avec ses petites ressources, vent, soleil, etc.,
Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement, le nucléaire est non seulement hors sol économiquement, mais il est hors sol nous concernant. C'est-à-dire, il n'y a pas un gramme d'uranium qui rentre dans les centrales ou les réacteurs français qui proviennent du sol français. Nous avons été mis hors du dossier des mines du Niger l'été dernier, donc 2024. C'est probablement Rosatom, les Russes, qui récupéreront le marché. Nous nous fournissons en uranium auprès du Kazakhstan d'abord, après le Canada, qui est quand même aussi, les mines du Canada sont quand même un peu possédées par Rosatom, le géant russe. Rosatom a évidemment les mines du Kazakhstan. Nous sommes un peu en Mongolie, Orano, pour essayer d'extraire l'uranium dans des conditions dégueulasses, encore une fois, en Mongolie. Mais enfin, on n'est toujours pas du tout indépendant ou souverain sur notre électricité d'origine nucléaire. Donc, c'est un petit détail, il faut toujours s'en souvenir. Après, pour aller dans le sens de Thierry sur les questions de nucléaire militaire, toujours sur les coûts, il faut savoir que le budget accordé à la bombe ou au système de dissuasion français a encore augmenté pour la prévision 2024-2030 de 8 à 9 milliards d'euros. Voilà, donc le choix actuel est de préparer la guerre. Le choix actuel est de se réarmer et de jamais modifier les fondamentaux et du nucléaire civil et du nucléaire militaire. Ce serait qu'on en aurait une nécessité absolue. Voilà.
Encore une ou deux questions et après...
Alors quand vous sortez du nucléaire, il y a toujours une phase où vous avez un recours prononcé aux fossiles. C'est normal, c'est la phase de transition. Tout dépend de comment vous avez préparé la sortie du nucléaire. Donc effectivement, il y a eu un recours plus important aux énergies fossiles. Notamment, on parle souvent des centrales à gaz en Allemagne. Ça, c'est normal, mais c'est une phase transitoire, en fait. Elle n'était pas brutale. Elle avait été préparée de longue date, déjà sous... Elle a été accélérée, mais enfin, ça faisait depuis le début des années 2000 que les Allemands savaient qu'ils allaient sortir du nucléaire. Ils ont attendu Fukushima pour l'annoncer officiellement, mais juste avant Fukushima, souvenez-vous, Angela Merkel disait « peut-être on va retarder la fermeture des centrales de 25 ans ». Donc, ils repartaient dans le sens comme ça. Bon, voilà. Donc, ils ont quand même fait le choix entre un, mais la phase transitoire de recours aux fossiles, le temps que les renouvelables, que les politiques de sobriété et d'efficacité se mettent en place, est tout à fait normal.
Sur le charbon, ils ont très fortement baissé le recours au charbon. C'est-à-dire, on est toujours un peu dans la mythologie du « oui, mais en fait, il y a eu une espèce d'effet de vase communicant, ils sortent du nucléaire, ils vont recourir au charbon ». En fait, c'est assez flagrant. Alors, je n'ai pas les chiffres, donc je ne vais pas les... Mais en gros, la principale caractéristique, ce n'est même pas la montée en charge des énergies renouvelables, c'est la baisse de la consommation. Quand vous regardez le nombre de térawattheures consommés il y a 15 ans et le nombre de térawattheures consommés en Allemagne aujourd'hui, c'est ça qui permet d'absorber la sortie du nucléaire. Après, vous avez en plus une montée en puissance des énergies renouvelables. Et juste comme dernier élément, en fait, en termes de résilience, la résilience, c'est s'appuyer sur plusieurs pieds. Quand vous regardez le système électrique français, c'est nucléaire, un peu d'éolien, un peu de photovoltaïque. En Allemagne, c'est une diversité de capacités de production qui fait que si vous avez un problème avec de l'hydraulique, vous avez de l'éolien. Si vous avez un problème avec de l'éolien, vous avez du photovoltaïque, etc., etc., etc. Vous avez au moins une vingtaine de sources de production différentes. Et en fait, c'est ça qui est une immense force. Et je vais redire, l'État centralisé qui imprime sa marque en disant « moi, c'est du nucléaire » versus la régionalisation en Allemagne où, en fait, vous avez une diversité parce que vous avez une diversité de collectivités et, en fait, localement, ils investissent dans leur capacité de production et, en fait, ils sont ultra résilients versus la France qui dit à un moment « moi, c'est le nucléaire, ah merde, j'ai un problème de corrosion sous contrainte, tout s'effondre. »
Et en Allemagne, il faut... effectivement, il y a... Le nombre d'acteurs est absolument considérable, puisque ce sont des municipalités, ce sont des organismes locaux qui sont en charge de l'énergie et non pas uniquement de l'électricité. Mais il faut bien voir en ce moment la tentative française au niveau européen de voir un certain nombre de pays revenir sur le nucléaire, notamment l'Allemagne. Donc, en particulier... via les fameuses SMR, là. L'offensive sur les SMR, le nombre de projets qui existent, et ce sont des projets qui sont toujours portés, non plus par des États, mais portés par des start-up essentiellement. Et donc, bénéficient de crédits pour la recherche, pour la mise en place, voire pour des prototypes qui sont en cours de préparation. Donc, il faut garder l'œil sur ce type de réacteur qui peut venir, qui peut... En particulier, il y a un débat public, le premier à ma connaissance, débat public sur un projet de SMR qui s'appelle Nucléo, qui est en deux endroits, dans l'Aube, près de Nogent-sur-Seine, pour une usine de fabrication de MOX, et dans Indre-et-Loire, pour la réalisation d'un projet de réacteur prototype. Bon, ce n'est pas encore fait, mais le débat public... Donc, C'est,
mais c'est pas ce, encore ce fait, et, moi j'ai très peur. J'ai bossé dessus pour le proposer à Arte, un film sur ce nucléaire miniature. C'est le nucléaire qui arrive près de chez vous, en fait. Et bon, ça a été refusé, donc dommage. Parce qu'on avait eu l'autorisation avec une consoeur de travailler au sein de l'entreprise Jimmy. Qui a acquis un terrain pour y installer son usine, qui pourrait fabriquer des modules qui rentreraient. Voilà. Et Jimmy travaille sur un réacteur de quatrième génération, sel fondu, neutron rapide, à sel fondu. Il y a 85 projets dans le monde. Il n'y en a pas un, ni deux, ni trois, il y en a 85. Et quand vous parlez des start-up en France, bon, bah, elles ne sont pas très méchantes, parce qu'a priori, elles vont y arriver, mais ce n'est pas elles qui me font peur. Celles qui me font peur, c'est les gars comme OpenAI, Sam Altman, ChatGPT, vous connaissez. Bon, bah, ils ont mis 500 millions de dollars. Hein. Eux, ils s'en fichent. Hein. Un milliard pour eux, c'est que dalle. Hein. Donc, ils ont mis 500 millions de dollars là-dedans. Jeff Bezos, Amazon, pareil, 1 milliard d'euros consacrés à ça. Google, tous les GAFAM rêvent de petits réacteurs miniatures. Alors, il faut voir ce que c'est un réacteur miniature. C'est à peu près la taille de ça. Hein, voilà. Certaines technologies permettent de ne jamais les ouvrir pendant 25 ans, de ne mettre aucun opérateur humain à l'intérieur, de n'avoir jamais à changer le cœur du réacteur avec un nouveau combustible, de ne jamais sortir des déchets. Vous avez votre boîte qui va provoquer avec sa réaction, etc., pas en chaîne forcément, parce que si c'est du neutron, enfin bref, technologiquement, ça fonctionne, c'est fermé. Vous avez, en termes de réseau, et pour éviter le piratage informatique, etc., des choses qui fonctionnent dans des VPN hyper puissants, avec des commandes qui viennent que d'en haut ou que d'en bas, enfin bref, je ne sais plus exactement. Mais bref, vous avez des choses comme ça, qui théoriquement, bah, ne peuvent que plaire à quelqu'un, à une entreprise dont la vocation est de fournir des datas qui produisent de la chaleur, qu'il faut rafraîchir et qu'il faut fournir en énergie décarbonée, donc en électricité. Là-bas, aux États-Unis, ça ne rigole pas. La course s'est lancée pour savoir qui sortira le premier, qui est réplicable, industrialisable et vendable donc en grande quantité. Voilà, il faut savoir que les SMR, il y en a un en Russie et en Chine qui ont déjà été mis au point. Et qu'à ce jour, c'est plutôt eux qui tiennent le haut du pavé, mais le reste arrive. Et je termine juste là-dessus. Un jour, sur un plateau télé, je vois Olga Givernet, fugace, très fugace, ministre de l'écologie et de l'énergie, pardon, sous Barnier. C'était sous Barnier. Oui, Olga Givernet, députée de l'Ain. De l'Ain, donc Buget. Donc Buget, EPR2. Mais elle m'a dit les yeux dans les yeux, je candidate, moi, pour l'implantation d'un SMR dans l'Ain. Donc ça va arriver beaucoup plus vite qu'on aurait le temps, nous, de faire des films pour Arte, pour que vous compreniez à quoi il faudrait s'opposer, que ce sera déjà dans les tuyaux. Et je vous avoue que ça avance à une vitesse quand même folle. Je sais que techniquement, on lève les yeux au ciel, on hausse les épaules, on dit « Oh, ça n'arrivera jamais ». Enfin, c'est en train de se matérialiser, quoi, littéralement.
Jean-David, et après vous répondez en concluant.
Ouais, vous avez expliqué, démontré que le nucléaire est un véritable désastre technologique, un désastre économique surtout. Donc je suppose que vous avez transmis ça aux décideurs scientifiques, techniques, technologiques et politiques. Mais qu'est-ce qu'ils vous répondent ?
Tu veux que je réponde à la question ?
Expert. On a une salle d'experts, c'est ça.
Non, moi juste j'ai une question là sur les SMR, parce que on a suivi, hein, et notamment tout le secteur français avec toutes les startups qui sont à fond et qui ont levé beaucoup d'argent. Simplement, moi j'avais lu il y a 15 jours dans Libération un truc avec le rapport de Michael Schneider qui disait, attendez, zéro, il y a effectivement tous les effets d'annonce dont vient de parler Laure, n'empêche que il n'y a pas un SMR qui marche au monde. Actuellement, il n'y en a pas un.
Si, en Russie, en Chine.
Non, pas qu'il marche en rythme de croisière, non. Ben non. Enfin bon, moi, c'est ce que j'ai lu, mais bon, voilà. Et après, surtout, partout, il y a effectivement ces rêves, ces investissements, mais il n'y a aucune chaîne technique, y compris au niveau européen, qui avance réellement. Donc, je vois bien les fantasmes, c'est comme l'hydrogène il y a 5 ans, hein, si vous voulez. Mais la réalité de ce qui avance, je vois bien OpenAI, tout ça. Mais moi, je voudrais juste savoir, est-ce que Michael Schneider, il a travaillé tout seul et il est approximatif, ou est-ce que son rapport qui fait un état des lieux assez désastreux, y compris beaucoup de start-up en PLS, hein, par rapport à ce qu'elles ont investi. Est-ce qu'il est solide, ce rapport, ou pas? Moi, j'étais resté avec ça, c'est tout.
Les réponses en deux minutes, comme ça vous...
Sur les SMR, moi, ce qui m'étonne énormément, c'est qu'il y a beaucoup de SMR qui fonctionnent, hein. C'est tous les réacteurs.
Ah oui.
C'est tous les réacteurs depuis 5.
Tous les réacteurs des sous-marins,
des portes. Tous les réacteurs de sous-marins.
Des brise-glaces.
Et je n'ai pas encore compris qu'il n'y ait pas une synergie entre les fameux start-up et puis les organismes qui s'occupent de ce type de réacteurs. Parce que derrière tout ça, il y a aussi des grands problèmes de cycle de combustible. Hein. Les combustibles en question, ce ne sont pas des combustibles...
Et de prolifération nucléaire.
De PWR. C'est des combustibles très spéciaux qui actuellement sont fabriqués en particulier uniquement aux États-Unis, mais aussi qui vont l'être aussi en France. Le fameux combustible HALE. Enfin bon, bref.
Attention, vous êtes
il y a du business. Il y a du business sur ce problème-là. Et juste une réponse à la question de monsieur concernant le PR. Moi, l'impression que malgré tous les problèmes qui ont été évoqués, tout ça a duré énormément de temps. Il y a quand même un énorme travail qui a été réalisé. Il y a pas mal de problèmes qui ont été résolus parmi tous ceux qui se posaient, d'autres qui ne le sont pas. Moi, je pense en particulier au problème de vibrations hydrauliques, et donc incidence sur ce qu'on appelle les fluctuations neutroniques, etc. Donc, et qui implique pour ce réacteur EPR de prendre des mesures, mais changement du fond de cuve, etc. Enfin, il faut le dire, un gros effort d'EDF pour faire en sorte que ça fonctionne. C'est-à-dire que si effectivement, on verra dans les mois qui viennent, ou dans les années qui viennent, si effectivement ça fonctionne, et comment tout cela est pris en compte dans la conception des EPR2, si effectivement les EPR2 sont décidés d'ici la fin de l'année.
Ça, c'était Michel 1, Michel 2, du coup, sur le...
Non, moi,
pour conclure,
je suis sur du local et je vais le rester.
T'es pas candidat Premier ministre? On en cherche un, il paraît. Mais...
Bah moi, j'irais
non,
bien,
non, ils vont l'ont trouvé, t'inquiète pas, il y en a, okay. Y en a toujours.
Non, mais très rapidement, c'est pas que je souhaite que ça arrive. Les travaux de Michael Schneider sont très bien faits. C'est des travaux qui viennent faire un état des lieux du nucléaire mondial chaque année. Donc c'est très précis, très minutieux. Effectivement, on a les nouveaux réacteurs connectés, ceux en construction, ceux qui sont fermés, etc., etc. Bon, ça, c'est l'instant T. Moi, je parle des mouvements en cours. Et quand bien même on ne veut pas que ça arrive, c'est pas en se disant « ça n'arrivera pas » que ça n'arrivera pas, parce que j'ai la trouille de cette nouvelle gloutonnerie énergétique qui est l'IA. On est tous allés prompter des conneries sur ChatGPT. Je vous aime. J'y suis allée, je confesse. Et ouais, je vais me flageller. Bah, je suis au bon endroit, avec du cuir végétal et tout.
Quelle est la vie des SMR ?
Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se joue dans les mouvements de capitaux, dans la restructuration de la recherche, dans des appels à projets, etc. Au niveau mondial, c'est une réalité. 85 projets, qu'il y en ait un seul qui sorte de terre, ça, c'est à peu près une certitude.
Allez, pour finir, une bonne nouvelle, une pub. Vous avez une question ? Non.
Alors là, je vous invite à...
acheter son bouquin. Non, non, on continue. Je finis juste ce que j'essaie de faire comme une sorte de conclusion. Bonne nouvelle, une pub, une rectification. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de plan d'austérité, tout ça. On a vraiment plein de pognon, manifestement. Oui. Dès qu'on parle de PR, on a 100 milliards. Donc on a réglé le déficit. Donc a priori, on n'a pas de sujet sur ça. La pub. Ben voilà, vous l'avez. Laure a écrit un bouquin, je pense qu'il est en vente là-bas. Et en fait, elle pourra vous gratifier d'une petite signature qui vaudra des millions dans quelques années.
Et il est accessible. C'est pas compliqué, c'est très compréhensible.
Voilà.
Très compréhensible.
Et garanti sans IA. Et une rectification. Non, le jour de la nuit n'est pas créé par l'AMSEN, mais par Agir pour l'environnement. Ça fait 17 ans qu'on l'organise. C'est l'association que je dirige. Et en l'occurrence, on a une soirée juste après, là, dans une demi-heure. demi-heure un débat sur le ciel étoilé nouveau Far Web avec les méga constellations qui vont arriver. Donc vous avez encore deux ou trois débats que vous pouvez avoir, dont une sur l'écologie décoloniale et une sur le Far Web. Donc vous avez encore l'embarras du choix pour continuer. On avait une soirée d'observation, mais je pense que ni à Tramail ni à Cluny on va avoir d'observation ce soir. Mais, sauf si vous soufflez beaucoup sur les nuages, mais je pense que ça va pas être très efficace. Merci encore pour votre...
Merci à vous.
Est-ce que vous pouvez continuer encore? Laure aime beaucoup être applaudie. Vous voulez encore?